les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Nathanaël Picasse.
Aujourd'hui, on vous parle de la fiction qui a remplacé Les Sopranos sur HBO, en fait qui est diffusée dans le créneau horaire des Sopranos quand les 13 épisodes annuels de la série sont terminés. Il s'agit de Six Feet Under, Six Pieds Sous Terre en français, aussi bonne que Les Sopranos, et je parie que tu ne vas pas me contredire, Nathanaël.
Non, effectivement, en effet, la série nous propose de suivre en fait le quotidien d'une famille de croque-morts. Et là, il faut bien le dire, nous pénétrons dans un univers pour le moins particulier. Ne se refusant rien, le producteur et scénariste Alan Ball s'attaque aux deux des plus grands tabou de la société américaine, la mort et le sexe. Carrément. Notons au passage qu'Alan Ball s'était déjà bien fait remarquer en signant le scénario pour lequel il avait reçu un Oscar, le scénario de l'excellent film American Beauty, qui est une critique acide et décapante de la famille américaine. Ici encore, le scénariste se lance dans une peinture sociale très juste, mais sans complaisance, d'une famille américaine à la fois totalement à part, du fait que la mort est leur gagne-pain, mais en même temps tellement proche de nous. Alan Ball tend à démontrer que les gens sont bien souvent très différents de leur image, de ce qu'ils montrent en société, et que sous la couche de vernis se cachent des gens aux motivations et aux sentiments souvent très complexes. En résumé, donc, le politiquement correct et l'hypocrisie en prennent pour leur grade dans cette série. Les particularités de la série, déjà, sont annoncées dès le départ. Premièrement, son début. Chaque épisode commence par la mort d'une personne dont la famille Fisher prendra le cadavre en charge jusqu'à l'enterrement. On assiste donc chaque semaine à des morts on ne peut plus varier, comme celle d'une femme à moitié décapitée dans sa voiture, un homme découpé dans un hachoir géant, un règlement de compte qui tourne au meurtre ou encore le décès prématuré d'un nourrisson. Bref, on voit toutes des formes de morts différentes.
Et là aussi, on peut dire qu'il brise les tabous parce que le nourrisson qui meurt notamment,
c'est très rare.
Je pense que c'est rare à la télé.
Voilà, surtout en plus qu'on voit en fait à la place du nourrisson. C'est assez perturbant d'ailleurs comme mort.
Ouais.
Donc ce sont des morts qui sont parfois révoltantes, parfois douces, amères, mais aussi des fois très drôles. Ça arrive, vous voyez, par exemple quelqu'un qui sort de chez lui, qui se prend un débris d'un satellite sur la tronche. C'est un peu bizarre, mais en même temps ça fait bien rire. Et donc en fait, cette mise en scène de la mort a le mérite d'annoncer la couleur. Ici, on affronte la mort de face, de front, on la regarde en face. Les cadavres sont là, ils sont filmés froidement, cliniquement. On apprend d'ailleurs des choses sur les cadavres, sur le fait que par exemple, dès qu'ils sont morts, ils se lâchent entièrement, ou pour les hommes qu'ils ont une érection, ce genre de choses. Pour la société américaine, ça a dû être un petit peu difficile.
On apprend même comment il faut qu'on prépare un mort pour l'embaumer. Ça, je me souviens, c'était ce qui m'avait le plus marqué au début.
C'est ça, quoi. Alors là, on peut aussi féliciter l'intelligence des scénaristes qui ont évité à la série de s'engluer dans un excès de leur moment, en fait. Parce que là, bon, vu qu'on voit la mort et qu'on voit des morts chaque épisode, ils auraient pu faire à chaque fois des gens qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent. Là, ici, c'est pas du tout ça. Le regard est tantôt dur, tantôt tendre, mais il n'est jamais complaisant. Alors cette entrée en matière justement de cette mort à chaque épisode a encore soulevé de nombreuses polémiques aux États-Unis, surtout dans un épisode très particulier où un homme s'adonne aux joies de la masturbation en se pendant, parce qu'il paraît que ça donne plus de plaisir. Seulement voilà, le jeu sexuel tourne très vite au drame, puisqu'il reste accroché et qu'il meurt tout en regardant son film porno.
Alors il y a des morts comme ça à tous les génériques, et il faut savoir qu'en fait les gens qui meurent au début de l'épisode accompagnent les personnages pendant l'épisode, puisqu'ils reviennent en espèce de fantôme, on peut dire.
Hallucination, ou en tout cas... Ils interrogent en fait très souvent les personnages de la famille sur leur motivation et tout. Donc ces morts en général renvoient la famille à leur propre peur et à leurs problèmes en fait.
Oui, parce que ces morts n'apparaissent qu'à la famille Fisher, pas à leur propre famille.
Ils n'apparaissent qu'à la famille Fisher, à chaque personnage aussi, pas à chaque personnage. C'est comme le père d'ailleurs de la famille Fisher qui meurt au début, qui réapparaît aussi périodiquement à chaque personnage et qui dit des choses des fois très différentes.
En fait, c'est encore une manière, tu disais tout à l'heure, c'est pas une mort larmoyante, c'est encore une manière de nous faire parler de la mort en voyant le mort, et donc pas de pleurer sur la mort.
Tout à fait. Et ce qu'il faut bien souligner dans cette série, c'est que bien sûr, cette mort au début a quelque chose de... c'est fait aussi la saveur de la série, mais il n'y a pas que ça dans cette série. Il y a aussi les personnages de la famille Fisher, en fait, qui sont tous très bien tapés, très bien écrits. La série débute par la disparition du père Fisher, Nathaniel, ce qui va bousculer la vie des autres membres de la famille. Chacun va donc devoir faire face à ses responsabilités, et surtout le clan va devoir apprendre à vivre ensemble, ce qui n'est pas évident. Donc on ne peut pas correctement parler de Six Pieds Sous Terre sans parler de ses personnages principaux, donc la famille. Ce sont eux vraiment qui, par leur finesse de trait, leur dysfonctionnement chronique, qui font toute la saveur vraiment de la série. Ici, je vais m'attarder surtout aux personnages de la famille. Il y en a d'autres aussi qui gravitent autour, mais on ne peut pas parler de tous parce que sinon, je crois que ça prendrait 3 ou 4 dossiers. À l'origine, l'entreprise familiale Fischer et Fils était dirigée par le père. Ce dernier espérait voir prospérer son entreprise grâce à ses fils. Seulement voilà, Nathaniel, l'aîné, a préféré quitter le cocon familial pour vivre une vie de bohème. Mais la mort de son père va l'obliger à réintégrer sa famille. En effet, son père lègue l'entreprise à ses deux fils, et Nate se voit ainsi forcé à apprendre à gérer une entreprise, à faire face à la mort, et à vivre dans une famille qu'il a toujours rejetée quelque part. Il va aussi apprendre à découvrir son père à titre posthume, et c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il voyait son père comme quelqu'un d'assez fermé, et puis il verra que son père avait quand même pas mal de secrets et qu'il lui ressemblait finalement très fort. Histoire de compliquer un peu plus les choses, lors de son arrivée à Los Angeles, il tombe amoureux de Brenda, une belle jeune femme, intelligente, mais très instable psychologiquement et au passé relativement trouble.
Totalement cynique aussi.
Et très très cynique aussi, qui fait aussi partie de ces personnages qu'on n'oublie pas après. De plus, Nate doit faire face à son cadet, David, qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de Nate dans l'entreprise familiale. Ayant toujours marché dans les pas de son père, David espérait d'ailleurs que Fischer et Fils, l'entreprise, lui reviennent entièrement de droit à la mort de ce dernier. Mais la gestion de l'entreprise familiale n'est pas l'unique pomme de discorde entre les deux frères. Pour résumer, tout les oppose. Autant Nate est libéré et extraverti, autant David paraît fermé et conventionnel. Sa seule originalité, je dirais même différence par rapport à ce qu'attendait son père, et son homosexualité. Bon, là je sens tout de suite encore une série qui parle d'homo, mais non, enfin oui et non. Oui, parce que l'homosexualité de David est un sujet récurrent de Six Pieds Sous Terre, et d'ailleurs au passage on peut saluer la finesse avec laquelle son homosexualité est abordée, et non parce que ce sont plus les rapports entre les personnages et leurs questions existentielles qui font la saveur de la série. En parlant de questions existentielles, maintenant on peut passer tout de suite au personnage de Claire, qui est la cadette de la famille, et alors elle est celle qui s'en pose le plus de questions existentielles. En fait, c'est un peu l'adolescente qui veut tout essayer, qui n'a d'a priori sur rien, qui franchement essaie de s'ouvrir au monde et qui s'étonne de voir ce monde un peu particulier.
Et qui en même temps ne sait pas du tout trouver sa place dans
non,
ce monde.
Non, pas du tout. Au contraire, elle est complètement à part. Et en même temps, elle fait preuve d'une maturité inhabituelle. Elle est loin de l'adolescente classique, le teenager américain moyen, je dirais.
Ce qu'on peut donner comme exemple pour ça, c'est simplement dire qu'en fait, elle roule dans un ancien corbillard qu'elle a repeint en verre pomme, je pense.
Oui, c'est ça.
Donc effectivement, elle se fait un peu mal voir des autres.
Oui, elle est déjà à son école. Tout le monde sait que sa famille travaille dans une entreprise de pompes funèbres. Elle est déjà vue d'un mauvais œil, déjà quelque part. Elle a un regard aussi cynique et un peu désabusé sur tout ce qui l'entoure. Et en même temps, elle n'hésite pas à taper là où ça fait mal et à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ce qui explique aussi en partie pourquoi elle est en conflit permanent avec sa mère. Donc sa mère qui est le dernier personnage qui clôture un peu ce petit tour d'horizon de la famille Fischer. Après la mort de son mari, elle tente aussi de se retrouver, de se recréer une place dans la société puisqu'elle est toujours restée femme au foyer. Et là, elle se dit, bon, ben, maintenant j'ai un peu tout mon temps, il faudrait que je m'occupe un peu de moi-même. Alors elle va se faire embaucher chez un fleuriste russe, elle va se mettre à fréquenter plusieurs hommes tout en continuant à gérer au mieux sa petite famille. Comme les autres, l'image qu'elle véhicule d'elle-même au début de la série est finalement très éloignée de sa véritable nature. Elle est d'apparence stricte, sévère, mais elle se révèle petit à petit être une mère courage, aimante, dévouée. Pour ma part, il s'agit sans conteste d'un des personnages les plus touchants de la série.
Elle en vient même à piquer dans les magasins, je pense, dans les dernières saisons. Elle a une amie qui l'influence
oui,
un peu
oui.
à sortir d'elle-même.
Qui est jouée par Kathy Bates, d'ailleurs.
Voilà. On est loin, effectivement, de la dame des premiers épisodes où on se dit « Oula, qui c'est cette fée Carabosse ?»
C'est ça, quoi. Et en fait, plus on apprend à la connaître, plus on voit que c'est vraiment quelqu'un... Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont construit. Elle a énormément évolué.
Ah, ben c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Je suis allé manger un morceau.
Tu aurais pu téléphoner.
Je crois que Monsieur Suarez, c'est oublié, ça pue, c'est normal.
T'es allé manger, tu n'as donc aucun respect pour les morts, à ce que je vois.
Écoute, Dave, j'ai du respect pour la vie humaine, mais je ne savais pas que les morts se chient dessus.
Bah maintenant, tu sais, prends en note.
Bon, arrêtez, je n'aime pas quand vous criez.
Et moi, je n'aime pas quand tu couches avec des coiffeurs.
C'est pas la peine de t'en prendre à maman. Si t'as un truc à me dire, tu me le dis à moi.
Nous avons un cadavre qui a passé pas loin de 2 heures dans une camionnette non réfrigérée et qui se décompose à une vitesse grand V comme tu peux même pas imaginer. Alors je te remercie de me rendre la vie bien plus difficile qu'elle ne l'est. Je te remercie de saper mon autorité auprès de mes employés. Et je te remercie aussi de démontrer que le choix que j'ai fait de me dévouer entièrement à cette affaire et à cette famille était vraiment stupide. Apparemment, j'aurais été aussi bien récompensé à me tourner les pouces et à ne rien faire de ma vie.
Toi, tu penses que j'ai une vie de merde, hein ? Va te faire foutre, moi au moins je m'éclate.
Eh ben alors, t'as bien de la chance.
Dave, je vais t'aider, attends-moi.
Non, je te remercie, ça suffit.
Dans la première saison, en fait, c'est surtout David qui veut rester dans l'entreprise et puis Nat qui s'en fout un peu et qui se sent un peu coincé, mais ça va s'inverser au fur et à mesure.
Oui, ce sont des personnages qui évoluent énormément, en fait, suivant leur motivation, suivant aussi ce qu'ils rencontrent, les problèmes qu'ils rencontrent évoluent, quoi. Donc, par exemple, David aussi va avoir des problèmes à assumer son homosexualité dans la première saison et puis il va de plus en plus l'affirmer dans les saisons qui suivent. Et Nate aussi est un personnage qui évolue énormément. Donc, ça qui est vraiment chouette, c'est que ce n'est pas une série statique au niveau des personnages, ils évoluent clairement. Ce n'est pas comme Friends, par exemple, où ils ont un caractère défini et qui font toujours les mêmes choses, par exemple.
Oui, c'est pas une sitcom.
Non,
ça, c'est
de toute
clair.
Façon, ça c'est clair. C'est une série qui, depuis ses débuts, connaît un véritable succès d'audience et un succès critique. Alors, quelles sont les raisons de ce succès? Premièrement, on peut dire que le réalisme dans lequel sont plongés les personnages est une manière pour la série de se démarquer des autres. Ici, on est très loin de Beverly Hills et du glamour qui pouvait faire un peu rêver. Ici, les personnages, 6 pieds sous terre, nous semblent, eux, bien réels. Ils ne sont ni laids, ni beaux, ni méchants, ni gentils. Ils s'habillent normalement, ils sont coiffés normalement, ils paraissent naturels.
Ils ont en tout cas des problèmes qui sont des problèmes quotidiens.
Oui, voilà, parce que c'est assez bizarre parce qu'on présente comme une famille dysfonctionnelle avec des personnages bizarres et pour finir, ils nous semblent très proches de nous. Enfin, il n'y a pas de très grande différence. Ça reste des personnages, mais les problèmes qu'ils rencontrent sont des problèmes que tout le monde pourrait rencontrer de toute façon. Ici, il n'y a pas de manichéisme non plus. Ils agissent tous selon leurs motivations propres, leurs attentes, leurs envies. Donc, tout un chacun peut se retrouver facilement dans chacun des personnages. À un moment, se dire, ah bah tiens, c'est comme ça que moi j'aurais réagi à ce moment-là et tout. Deuxièmement, on peut aussi parler de la pertinence du casting, qui n'est pas étranger à la qualité de la série. Bien que relativement peu connus, en fait, les acteurs sont tous excellents et en phase avec leur personnage. Citons en particulier donc la mère, Ruth, qui est jouée par Frances Conroy, qui a connu une brillante carrière à Broadway. On peut parler aussi de Peter Cross, qui joue Nate, et aussi Lauren Ambrose, qui joue Claire. Petit détail intéressant, elle a suivi une formation de chanteuse d'opéra. Très éloigné de ce qu'elle fait.
Oui, très éloigné du personnage en tout cas.
Oui, il est d'ailleurs pas étonnant d'apprendre que la série a été récompensée en 2003 pour la qualité de son casting aux Emmy Awards. Au passage, on peut souligner aussi que la série reçoit fréquemment des guest stars prestigieuses, comme par exemple Kathy Bates, pour ne citer qu'elle, qui fait un passage remarqué dans la saison 3 et qui d'ailleurs va réaliser quelques épisodes de la saison 3 elle-même. Troisièmement, on peut dire que l'humour noir est un véritable plus dans cette série. Là encore, les scénaristes ont évité de nombreux écueils. Ils utilisent rarement un même procédé pour faire rire. Un coup, ça va être une situation qui va être drôle. Un autre coup, ça va être un bon mot qui va être drôle. 6 pieds sous terre, la série fait aussi appel aux séquences hallucinées, un peu à la manière d'Ally McBeal, comme on en avait parlé, avec ces morts qui apparaissent aux personnages, mais aussi par rapport à ces personnages qui ont des visions. Un coup, David va se mettre à chanter, il se voit dans une comédie musicale. Un exemple assez comique, c'est David, donc, qui n'a toujours pas révélé son homosexualité. Son père vient de mourir et il est dans son lit avec son amant et tout d'un coup, il voit son père en train de les regarder, qui fait « Bon alors, c'est qui de vous deux qui mord l'oreiller ?»« Non, vous en faites pas pour moi, je voulais juste savoir comment vous faisiez. » Donc c'est un petit peu bizarre et en même temps c'est très très drôle. Pour les accros de la série, il y a aussi un trait d'humour qui était assez particulier dans l'épisode pilote et qui a été malheureusement retiré après, c'est que les publicités diffusées pendant l'épisode proposaient des articles de pompes funèbres justement, où on voyait une femme en train de vanter les mérites d'un corbillard.
Il y avait la crème pour que le corps reluise.
Oui, voilà, la cire pour que le mort paraisse plus beau et tout. Mais voilà, c'est un humour qui n'a pas été du goût de tout le monde, donc ils ont supprimé.
Mais en même temps, je ne suis pas sûre que les scénaristes auraient pu tenir pendant 3 saisons à raison de 3 pubs.
Il y a des milliards d'articles non plus à proposer. Enfin, ça doit souvent être les mêmes, finalement. Oui, c'est clair que ça n'aurait pas pu durer longtemps, mais moi, ça m'aurait bien fait plaisir que ça continue encore un petit peu, parce que ça apportait vraiment un petit plus.
Mais c'est vrai
très sympa.
Et ça aussi, c'était une manière de traiter la mort comme on n'a jamais vu. Moi, j'ai jamais vu personne oser faire ce genre de choses.
Ça, c'est clair. C'est vrai que c'est assez inhabituel que ce soit en plus les Américains limite qui proposent ça, mais il faut vraiment dire que HBO est vraiment une chaîne qui ose beaucoup plus que les autres. Quatrièmement, on peut dire que bien qu'en apparence anodine, la mise en scène de la série se veut très soignée, très stylisée, avec une très belle photographie, et donc elle apporte aussi un véritable plus. Enfin, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la mort n'est pas le sujet principal de la série. C'est au contraire la vie qui en est le thème, la vie qui se déroule, les gens qu'on rencontre, les événements auxquels nous sommes confrontés, tout ce que nous faisons pendant ce laps de temps qui nous est imparti entre deux morts. Et voilà de quoi parle la série réellement.
Une série qu'en tout cas, on conseille.
Tout à fait.
Ça me paraît clair.
À partir du moment où on a commencé à la regarder, on ne peut plus s'arrêter normalement.
Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si quelque chose vous plaît, vous prenez. Mais le problème, c'est notre éducation. Dès l'enfance, on nous apprend qu'il est injuste et quelquefois illégal de prendre le bien d'autrui. Quelque part, c'est dégueulasse.
Ouais, c'est vrai.
C'est faux.
La prodigalité de l'univers est sans limite.
Expliquez-nous exactement ce qu'est vision de beauté.
Oh, je dirais que c'est une manière de mieux vivre en profitant de ce qui nous est offert.
Ce n'est pas une secte, votre truc?
L'être humain aspire à une vie meilleure, c'est son instinct. Quand je pense qu'il y a 2 ans, je vivais dans ma voiture comme un con.
Dès la première fois, dès le tout premier regard, il voulait déjà m'épouser. Je vous jure, c'était merveilleusement romantique. Et maintenant, nous avons un beau bébé.
Voilà ce qu'est vision de beauté. C'est une façon de voir et d'évoluer dans le monde sans crainte. Nous offrons à cette société un nouveau visage. Si vous voulez vous inscrire, c'est $45,000.
Oh, c'est bon, j'adhère, je le sens bien.
Vous êtes en quête du grand frisson?
Je veux, ouais.
Bienvenue à Vision de Beauté, Ronnie.
Oh, votre mari a un corps d'athlète.
Oui, je sais. Il passe des heures accroché à une barre au-dessus de l'escalier.
Nom d'un chien. Je le crois pas, là. C'est du sang. Il s'est explosé la tête.
Chandler ! Chandler !
C'est pas possible !
Bon, même si c'était une très grande série dans les 2 premières saisons, il était quand même force de constater qu'il y avait une nette baisse de régime dans les saisons 3 et 4 de 6 pieds sous terre, donc et les producteurs de la série avaient prévenu très rapidement que la saison 5 serait la dernière, donc ils voulaient pas prendre le risque de lasser le public. Alors la question était de savoir si cette saison terminerait cette superbe série en apothéose, ou bien si elle prouverait qu'il était grand temps que la famille Fisher ferme ses portes. Et bien, après avoir regardé la saison 5, je dirais un peu des deux. Donc oui, la série se termine en apothéose, et oui, il était vraiment temps de prendre congé des Fisher. Pourquoi? Et bien, tout simplement parce que pour ma part, je trouve que la formule de la famille dysfonctionnelle, toujours au bord de la crise de nerfs, finit par agacer. Alors bien entendu, on prend toujours plaisir à suivre les personnages, leurs aventures, leurs considérations existentielles, mais au bout de 5 saisons, on n'y croit plus vraiment, en fait. Trop, c'est trop. On se rend compte, en fait, vraiment, en regardant la saison 5, combien la saison 3 et 4 ont fait du tort à la série en général, puisque les scénaristes ont tellement poussé le bouchon loin, en augmentant les crises des personnages dans les précédentes saisons, et dans la saison 4 avec ce final très dur, qu'on se dit, bon ben là maintenant, après ce qu'ils ont traversé, les personnages, ils ont évolué, c'est bon, ils ont vraiment là traversé la mort, là, beaucoup de choses, et on se dit là maintenant c'est bon, ils peuvent un peu plus mieux vivre et moins se prendre la tête. Eh bien non, on sent que ça commence à sentir le réchauffer. Alors au rayon des termes usés jusqu'à la corde, ben Nate a toujours du mal à trouver sa place dans ce monde, entretient toujours sa colère envers tous et toutes. Claire multiplie toujours les aventures amoureuses un peu bancales. Brenda est toujours aussi perturbée. Et ce n'est pas une fausse couche, un mariage pas très heureux et à nouveau retombé enceinte qui va vraiment l'aider à se restabiliser. Ruth se défait de son xième amant et David tente bien que mal de gérer son couple avec Keith. Donc là, c'est un peu les problèmes qu'il y a depuis le début de la première saison.
On tourne en rond.
Voilà, ouais. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence un petit peu à énerver. Et c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que le scénariste a même fait un clin d'œil par rapport à ça, puisqu'il y a un moment où Brenda, elle travaille en fait en tant que psychologue dans cette saison. Et en fait, elle a une collègue avec qui elle discute souvent de ses problèmes de couple, et la collègue à un moment lui dit, mais j'en peux plus, ta gueule, enfin c'est essaye de parler de choses futiles pour une fois, j'en ai marre que tu me parles de tes problèmes, parle de choses un peu plus légères. C'est vraiment le ras-le-bol que le spectateur a aussi par rapport à ça, en disant, mais allez, allégez un peu le truc maintenant,
partez en vacances,
oui, faites quelque chose, amusez-vous. Bon, la critique semble un petit peu rude, un peu dure, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à cacher ma déception, parce que autant il y a d'autres séries qui ont réussi à évoluer, à faire grandir leurs personnages, autant ici on sent que la série d'Alan Ball est figée dans le temps. Et puis bon voilà, après ces 2 premières saisons qui étaient vraiment spectaculaires, innovantes, on se dit bon bah allez, c'est dommage de ne pas avoir pu faire évoluer ça dans le bon sens du terme. En fait, au lieu de se réinventer, les scénaristes ont multiplié les situations semblables, et ça a rappelé douloureusement que 6 pieds sous terre n'était finalement qu'une série dans le sens le plus
sérieux du terme.
Voilà, exactement. Et je parais sévère, mais paradoxalement, je trouve que la saison 5 est l'une des meilleures. Mmh. C'est un peu paradoxal, parce que en tant que telle, si on n'a pas vu la saison 3 et la 4, elle est dans la parfaite lignée de la première et de la deuxième saison. Et donc la saison réserve pas mal de bons moments. Il y a les rêves éveillés de des personnages où on les voit péter leur cri tout d'un coup et on se rend compte que c'est juste dans leur tête. Ces moments-là font un nouveau mouche, on voit une crise d'hystérie de Rousse contre George, le cauchemar de David à l'idée de faire appel à une mère porteuse pour avoir un bébé est particulièrement bien tapé, c'est horrible d'ailleurs. Ou alors il y a un tour de chant de Claire en plein milieu d'un boulot puisqu'elle commence à travailler dans un bureau, tout ce qu'il y a de plus aliénant à la manière de Dead Like Me, je dirais même. Et à un moment, elle en peut plus, elle est dans des collants extrêmement serrés, elle commence à chanter et c'est un passage très très drôle et c'est aussi une manière d'exploiter le talent de l'actrice qui est une chanteuse d'opéra à la base. Il ne faut pas non plus oublier que les dialogues et les acteurs sont toujours excellents, ça c'est sûr. Il faut aussi noter les prises de position anti-Bush qui sont nettement affichées dans cette saison. On voit ainsi les membres de la famille s'insurger de la réélection de Bush à plusieurs reprises, ainsi que même de parler de la guerre en Irak avec des positions plutôt fortes par rapport à ça. Et voilà, je ne peux pas terminer sans parler quelques instants de l'épisode final, qui est vraiment d'une beauté et d'une émotion à couper le souffle, surtout les 6 dernières minutes. Pour la première fois, et vraiment sans en dévoiler l'intrigue, on assiste vraiment à la véritable fin d'une histoire. Je trouve que l'idée est brillante et finalement tout à fait dans la logique de la série. C'est vraiment très bien amené et c'est vraiment très difficile de contenir ses larmes par rapport à ce dernier épisode. Il est vraiment très très beau et je trouve que ça rachète à lui seul tous les ratés des précédentes saisons et il permet quand même de conclure sur une note très positive. Maintenant, Six Feet Under, 6 pieds sous terre, peut reposer en paix. Elle a été et restera une très grande série.
Donc maintenant, on n'a plus qu'une envie, c'est d'aller voir.
Voilà.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.